Monsieur le Supérieur Général, Excellences, chers confrères, mes très chères sœurs, chers fidèles, veuillez m'excuser si j'ai laissé quelque peu de mes forces aux États-Unis et la moitié de ma tête en mi-Atlantique. C'est que le calendrier ne permet pas d'intervalle de confort. On ne peut pas manquer cette belle fête du sacerdoce qui arrive tous les ans à Icon le jour des ordinations. Fête non seulement de nouveaux prêtres, mais aussi de beaucoup des anciens. Nous sommes nombreux à avoir été ordonnés le 29 juin. Et cette année-ci, en effet, ce serait le 20e anniversaire d'une douzaine de prêtres de la fraternité et le 10e anniversaire de quelques 20 prêtres. C'est très beau. Les années passent et Dieu soit loué. Ces prêtres aiment leur sacerdoce, c'est pour cela que nous les voyons ici chaque année si nombreux. Nous penserons particulièrement à ceux qui célèbrent ces anniversaires cette année-ci et nous remercions Dieu de tous ces prêtres qui aiment leur sacerdoce. Ce sont, chers confrères, vous serez d'accord avec moi, deux grâces insignes. La grâce du sacerdoce et ensuite la grâce de l'amour de son sacerdoce. Parce qu'il y en a qui reçoivent le sacerdoce et qui en perdent l'amour, hélas. Et alors nous félicitons tous les prêtres qui sont présents de ce qu'ils viennent participer à l'ordination de nouveaux confrères. Et nous pensons à la pensée de ces prêtres qui ont maintenant 10 ou 20 ans de sacerdoce, nous fait penser et au passage du temps et à la sagesse divine. Les années passent. Monseigneur Lefebvre, bien sûr, est mort maintenant, depuis 8 ans. Les années 90 ne sont plus les années 70. C'est le même combat, d'une certaine façon, un autre champ de bataille. C'est la même bataille, d'une autre façon, un autre champ de bataille. D'une certaine façon, un autre champ de bataille. Le stat crux d'involved orbis. La religion ne change pas, mais le monde, il change. Et le diable essayera toujours de nouvelles tactiques pour nous avoir. La sagesse divine, nous savons tous, mes chers amis, je le pense, les choses ne peuvent pas continuer encore longtemps comme elles font actuellement. Bon, c'est entendu, c'est déjà plusieurs années qu'on se le dit, et pourtant cela continue. Mais les pressions deviennent toujours plus fortes qui, un jour, doivent faire sauter cette situation instable dans le monde et dans l'Église. Personne d'entre nous ne sait l'heure. Mais nous aurions pu craindre que cela n'éclate déjà, disons, il y a 15 ans. Et si cela, la fraternité, quelle force aurait-elle eu à ce moment-là? Mais dans les plans insondable de Dieu, voilà que la fraternité est maintenant forte d'un bon nombre de prêtres avec 20 ans de sacerdoce. Ça, c'est une expérience sacerdotale importante. On n'est plus que des jeunes. Le bon Dieu, bien sûr, l'a prévu depuis l'éternité. Nous aurons, Dieu aidant toujours, la petite fraternité a maintenant de l'expérience et des forces pour faire face à ce qui va arriver. sagesse divine, car l'apostasie monte aussi. Cette apostasie qui remonte au moins la moitié d'un millénaire, 1500, de 1500 maintenant jusqu'à 20 000, 500 caractérisés le plus profondément par l'apostasie. Pour ne pas croire que ce soit l'apostasie qui caractérise ces 500 ans, il faut ne pas croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur est Dieu et que il est le centre de la création, le centre de l'univers, le centre de tout, et que l'on se détourne de lui, comment veut-on qu'il n'y ait pas de graves conséquences? Mais au fur et à mesure que l'apostasie avance, bien sûr, on sait de plus en plus cacher cette vérité, que c'est notre Seigneur qui est au centre. Alors plus l'apostasie avance, moins on voit que c'est bien cela qui caractérise notre pauvre monde. Nous le voyons dans tous les domaines. Premièrement, bien sûr, une apostasie commencera dans la religion. Et nous avons partout ces fausses religions. Un nombre qui augmente toujours de nouvelles fausses religions, peut-être pas tous les jours, mais enfin, une fragmentation, une poussière de religions. Et on veut réunir tout cela dans la fausse religion qui est peut-être la pire de toutes, la liberté religieuse, qui est bien, elle, une religion qui en prend la place. Vous êtes, vous autres Européens, vous êtes tellement bêtes que vous vous entretuez pour les religions. Eh bien, nous voilà, nous allons vous massacrer pour la liberté religieuse. C'est la Yougoslavie. Et évidemment, on est de plus en plus nombreux à croire en la liberté religieuse comme façon de réunir toutes ces divisions. Sans Dieu, une union sans Dieu. La vraie solution, bien sûr, la vérité qui est de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Église catholique, et c'est la seule solution. Cet effondrement de la vérité dans le domaine religieux déteint sur tous les autres domaines. En politique, le libéralisme, l'individualisme encore à tous les niveaux, l'individualisme des nations, le nationalisme qui met les nations l'une contre l'autre. On l'a vu, la Première Guerre mondiale. Belle époque, disait-on, juste avant cette guerre. Cette guerre, Première Guerre mondiale, devait durer quelques semaines. Tout le monde croyait que ce ne serait que quelques semaines. On n'a pas pensé à Dieu. Dieu y a pensé et il a permis le châtiment de ce monde qui vivait sans lui, dans l'individualisme et des individus et des personnes et des nations et des sociétés et des classes. Vous voulez avoir une belle époque sans moi? Eh bien, voyez ce que cela donne. Maintenant, nous avons la belle époque de la liberté religieuse. Nous avons la belle époque du bombardement des nationalismes, toujours sans Dieu. Et nous pensons, c'est la paix, la paix. L'Écriture sainte est là pour nous avertir. Lorsque tous diront la paix, c'est le moment où éclate la guerre. Je l'ai dit il y a quelques semaines, si les péchés d'avant la Première Guerre mondiale, nous ont mérité la Première Guerre mondiale si les péchés d'entre les deux guerres nous ont mérité la Deuxième Guerre mondiale, qui était bien plus terrible que la Première. Qu'est-ce qui nous attend avec les péchés des années 50, 60, 70, 80, maintenant 90? La solution en politique, cette vérité du bien commun, le bien commun, une doctrine difficile à saisir parce que nous sommes tellement imprégnés du libéralisme. Et pourtant, doctrine indispensable pour ne pas basculer de l'individualisme dans le collectivisme de l'autre côté, pour garder l'équilibre, le juste équilibre. La doctrine du bien commun, chers confrères, connaissons bien et connaissons à fond cette doctrine-là. En droit, le positivisme, les hommes pensent pouvoir faire les lois comme ils veulent, comme ils entendent. Il n'y a que ce que eux-mêmes ils posent comme loi qui est le standing de loi, de droit. Si je veux faire une loi pour l'avortement, j'ai le droit de le faire et la loi sera valable. C'est la catastrophe, c'est la contradiction continue, c'est le chaos et l'anarchie dans le domaine du droit. Et la solution, le droit naturel. Il y a un droit naturel, il y a un droit dans la nature des choses, il y a une nature des choses. Et dans cette nature des choses, il y a un droit naturel qui participe à la loi éternelle de Dieu. Mais si on chasse Dieu, on chasse la loi naturelle, c'est l'anarchie dans les tribunaux, dans les têtes des avocats, dans les têtes des politiciens, dans l'économie. L'économie, si on chasse Dieu et qu'il n'y a plus de vie éternelle, eh bien, il faut poursuivre le plus de confort possible dans cette vie ici-bas. C'est le matérialisme. Tous veulent le matérialisme et l'égoïsme qui rejoint encore l'individualisme. Tous veulent s'approprier à eux-mêmes le plus de bien possible, même aux frais du voisin. Et si les hommes ne se mettent pas tout de suite à se battre entre eux pour s'arracher plus de biens, c'est qu'on augmente le niveau de vie en sorte que chacun est content pour le moment, mais si jamais cette augmentation cessait, si cette abondance des biens matériels prenait fin, eh bien, toutes les espérances des hommes sont là. Et si on déçoit cette espérance-là, les hommes deviendront des animaux. C'est bien ce que l'on voit aux États-Unis. Si un vilain jour, on va leur arracher ces biens matériels comme les jouets aux enfants, les enfants se mettront en pleurs et les adultes se mettront s'entre-déchireront. Là encore, si on ne veut pas revenir à Dieu, c'est ce qui nous attend. Dans le domaine des arts, des beaux-arts, vous avez entendu dire, les beaux-arts sont devenus les lézards, et c'est toute la civilisation qui est lézardée. Pourtant, pour les peintres et les sculpteurs, par exemple, la nature est la même qu'il y a 100 ans, 20 000 ans. La beauté de la nature, la beauté humaine est pareille. Mais la vision qu'en ont les artistes aujourd'hui est très laide. Et d'une certaine façon, si les artistes essaient d'embellir ou de représenter ce qui est beau, ça sonne faux, pour ainsi dire. Ça paraît faux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de beauté dans les cœurs. À l'intérieur des hommes, la beauté extérieure est toujours pareille, mais à l'intérieur, il n'y a que la guerre qu'on fait à Dieu, donc le manque d'harmonie, le manque de beauté dans l'âme, ce qui fait qu'il est impossible de représenter, de redonner cette beauté de Dieu qui est toujours dans la création. Pas possible. Les arts trahissent cet abandon de Dieu. Et les arts ne peuvent pas réparer. Ce n'est pas dans le pouvoir des arts de refaire l'harmonie et la beauté dans la vie, de la vision intérieure. Alors, où est la solution? Où trouvera-t-on la doctrine du bien commun? Où trouvera-t-on le renoncement au matérialisme? Où trouvera-t-on la certitude de la beauté, l'authenticité de la beauté? Où trouvera-t-on la vérité dans le domaine religieux? Vous le savez, chers amis, pas en dehors de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui est la gardienne du bien commun, de la beauté, du renoncement, de toutes les solutions, des solutions de ces problèmes. Et c'est parce qu'on a voulu quitter le catholicisme qu'on a perdu les solutions et que les problèmes deviennent effectivement insolubles. Par où nous vient cette Église de notre Seigneur Jésus-Christ? Par le choix de notre Seigneur et par ce qu'il a voulu donc instituer selon la volonté de son Père, c'est par les prêtres. Notre Seigneur a voulu confier son Église aux hommes de par l'ordination de certains d'entre eux. Certains d'entre eux recevront ce sacrement de l'ordre et c'est eux qui seront les transmetteurs des sacrements, les hommes de l'Église, c'est eux qui feront l'Église, et l'Église, d'après ce que notre Seigneur a voulu, ne se fera pas sans eux. D'où la fête d'aujourd'hui et la festivité dans les cœurs catholiques chaque fois que nous recevons de Dieu de nouveaux prêtres. Et chers diacres, chers nouveaux prêtres, soyez bien convaincus que c'est vous les sauveurs du monde. C'est notre Seigneur le sauveur du monde et nous autres prêtres, pour pauvres que nous sommes, quand même, de par sa volonté divine, nous n'avons pas le droit de nous rabaisser dans nos propres yeux, non, ni dans les yeux des autres. C'est à nous qu'il a confié cette énorme responsabilité. Soyons humbles et soyons unis entre nous, que la mesquinerie humaine ne vienne pas interrompre le travail de notre Seigneur. Nous en répondrons devant le tribunal du Seigneur. Nous sommes par extension et par la volonté de notre Seigneur les sauveurs du monde. Mais attention, comme notre Seigneur, ce n'est pas nos idées, nos volontés, nos propres solutions. Tout comme notre Seigneur lui-même a dit, et combien de fois dans l'évangile de Saint Jean en particulier, ce que je fais, ce n'est que ce que mon Père me dit de faire. Ce que je vous dis, ce n'est que ce que mon Père me commande de dire. Je ne fais que la volonté de mon Père. Et nous le savons, faire cette volonté jusqu'au bout a coûté à notre Seigneur une sueur de sang, une agonie, et finalement un couronnement d'épines, une flagellation et un crucifiement. C'est par là qu'est passée la volonté de son Père. Ce n'est... Et qui aurait pensé à cela? Nous devons nous douter que les solutions auxquelles nous autres nous penserions pour les problèmes d'aujourd'hui, attention, sont les solutions de notre Seigneur. Si oui, c'est bon. Sinon, nous perdons notre temps. Et alors, quelles sont les solutions de notre Seigneur? Où commence le sens du bien commun? Où commence le sens de la vérité? Où la vérité peut-elle empoigner les hommes dans un monde qui vit dans la fantaisie? La réalité virtuelle, dit-on maintenant, ces ordinateurs, toutes ces machines, toute cette fantaisie. Où y a-t-il une réalité capable d'empoigner les hommes, leur tête et leur cœur? Où y a-t-il la doctrine du bien commun? Où y a-t-il la splendeur de la beauté? Où y a-t-il le renoncement, l'exemple de du dépouillement, le renoncement au bien matériel? On peut dire, chers amis, chers confrères, vous le savez, la messe, la sainte messe, la messe où on est uni pour adorer notre Seigneur, où on se perd soi-même, on se perd dans quelque chose d'infiniment plus grand. Cela, pour beaucoup qui assistent, qui reviennent à la vraie messe, la première fois, cela peut les prendre à la gorge. Ils veulent tout de suite, par exemple, se confesser. C'est la vérité qui les empoigne. La messe, c'est la réalité, la réelle présence, le réel sacrifice, le réel sacerdote, le prêtre réel. Ceci, ce n'est pas la fantaisie. C'est un sacrifice divin qui me prend à la gorge, qui peut me prendre à la gorge. Alors le bien commun, la beauté. Pour peu que la messe soit célébrée correctement, ce sera beau. La laideur n'y a aucune place. On ne veut pas de la laideur. On écartera la laideur le plus tôt possible, instinctivement. Le sens de l'ordre, une nature des choses, quelque chose qui est en dehors de moi, qui me dépasse, qui n'est pas taillé selon mes petites idées. Une loi naturelle, un droit naturel, un ordre, il y a un ordre dans la création auquel je dois me conformer. Il y a un sacrifice qui m'appelle à me sacrifier. Tout cela, c'est dans la messe. Et c'est par l'assistance à la messe que cela commence. Voilà ce que nous savons, mes très chers amis, instruits par Mgr Lefebvre, depuis 20-30 ans maintenant. Et lui ne faisait que transmettre ce que lui aussi avait reçu, mais que combien d'hommes et d'hommes d'église avaient perdu. Alors, la vérité de notre Seigneur, la messe, les sacrements, la confession, cher diacre, bientôt prêtre, aimer confesser, c'est capital. Padre Pio, qu'on vient de béatifier, il ne prêchait pas beaucoup, que je sache, mais tous nous savons le bien énorme, incroyable qu'il a fait par la confession, par la messe et par la confession. Assister à sa messe et se confesser à lui. Et c'est tout un monde de vérité et de beauté, du bien, le vrai, le beau, qui s'ouvrait aux âmes et qui était, si je puis dire, authentifié par l'exemple vivant du crucifié en la personne du Padre Pio. Voilà notre exemple. Aimer confesser, chers confrères, les sacrements, ce sont les cailloux de David. Cette guerre de Goliath, on gagna nous autres par les armes de David et pas avec les armes de Goliath. Renonçons aux armes de Goliath. Elles ne peuvent pas servir à nous. Nous sommes bien trop petits pour porter cette grande armure. Mais les petits cailloux de David frappent et tuent l'ennemi. Saint-Paul le dit, notre bataille n'est pas contre les puissances humaines, mais contre les diables, les principautés, les démons. Ce n'est pas par des armes humaines, ni par des conceptions humaines que nous pouvons gagner cette bataille-ci. Les armes de notre Seigneur, notamment les sacrements et la vérité. Et la vérité, pas sans compromission. La vérité, et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, dont je suis sûr, si je vous dis une bêtise, vous la rappellerez tous vos jours. Si je vous dis des choses sérieuses, vous ne vous le rappellerez pas nécessairement tous les jours. Alors je vous dis une bêtise. La vérité est comme le whisky. Je peux dire que c'est une parabole, mais enfin, c'est peut-être une bêtise. Enfin, le whisky se boit, peut très bien se boire avec l'eau, et beaucoup préfèrent boire le whisky avec l'eau. Et il y a des gradations à l'infini. Beaucoup de whisky, peu d'eau. Beaucoup d'eau, peu de whisky. On peut diluer son whisky comme on veut. Mais tous ceux qui aiment boire le whisky dilué, ils sont quand même en dépendance complète d'une distillerie qui fait du whisky pur. Le whisky avec l'eau serait impossible sans le whisky pur. De même avec la vérité. Beaucoup aiment boire la vérité plus ou moins diluée, plus ou moins frelatée, plus ou moins compromise avec le monde. Nous avons aujourd'hui les conservateurs. Les conservateurs qui veulent dire la bonne messe, mais qui veulent en même temps s'entendre avec cette Rome néo-moderniste. C'est le whisky avec l'eau. Ils sont incapables, s'il leur est défendu, par exemple, de dire la vérité sur Vatican II. Ils leur est défendu. Et ils sont d'accord pour avoir la messe avec l'accord de Rome, ils sont d'accord pour se taire sur les problèmes de Vatican II. C'est la compromission, c'est la dilution. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces gens-là, tous ces conservateurs, sont en dépendance d'une source de vérité pure. Il n'y aurait pas la possibilité de frelater la vérité si quelque part on ne la trouvait pas à l'état pur. Et pour le moment, et depuis des années, par la grâce de Dieu, c'est bien la Fraternité Saint-Pédis qui a été, disons, la distillerie la plus importante. Je ne crois pas que ce soit sortir de la vérité, le dire. Quelle autre organisation mondiale y a-t-il de prêtres capables de dire la vérité sans bavure et sans compromission envers ces autorités qui sont plus ou moins noyées dans le mensonge? Alors ce n'est pas, si nous nous en vantions, malheur à nous. Mais si nous sommes dans la vérité, eh bien, c'est la vérité qui s'impose à nous, pas nous qui disons ce qui est la vérité. Le cardinal Ratzinger, une fois, a reproché aux chefs de la fraternité qu'ils sont très sûrs d'eux-mêmes. Mais non, éminence, nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Tout le contraire, nous avons toutes les raisons de nous craindre nous-mêmes. Ce dont nous sommes sûrs, c'est de la vérité. Et si nous tenons la vérité, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne la tenons pas. Et si nous la tenons, nous n'avons non plus le droit de la diluer, ni de la changer, ni de la compromettre. C'est comme un mathématicien. Quand on travaille à base de 2 et de fond 4, on est dans la vérité, on sait qu'on est dans la vérité. On ne s'en vante pas qu'on travaille avec 2 et 2 fond 4, c'est tout à fait normal. C'est travailler à base de 2 et 2 font 5, qui est bête, qui est fou. C'est pas moi qui ai fait que 2 et 2 font 4. Je ne m'en vante pas. Mais c'est ça, c'est là. Très cher diacre, ayez le sens profondément de cette vérité qui nous dépasse, qui est bien au-dessus de nous. Nous ne sommes que les petits serviteurs de la vérité. Et toute notre force de la fraternité est dans cette vérité. Nous n'avons pas d'autre. Nous sommes humainement comme rien, numériquement pas grand-chose. Du point de vue des talents humains, j'en ai parlé il y a quelques années, je crois. Je ne me répète pas. Le bon Dieu aime toujours faire de grandes choses avec des riens. C'est sa manière. Alors, nous n'avons pas à dire, nous sommes des riens, donc nous nous disons, comme saint Augustin, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a choisis, mais étant donné qu'il nous a choisis, à l'œuvre. Très cher diacre, quelle œuvre, quelle belle œuvre. Et donc, mettons-nous dans les pas de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre qui a dit, donc il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant, dans le petit salon là-haut, dans le séminaire, on était 4 à l'écouter, il a dit, je ne crois pas, en 88, je ne crois pas, les paroles étaient bien pesées, je ne crois pas qu'on puisse dire que cet homme n'a pas perdu la foi. Je ne crois pas qu'on puisse dire que cet homme n'a pas perdu la foi. Et ensuite, il a dit, il y a ce, n'est-ce pas, étant donné cette division, si vous voulez, entre nous et la Rome officielle, on peut, l'un ou l'autre peut craindre la marginalisation, notre marginalisation. Mais souvenons-nous, si je ne me trompe, n'est-ce pas Mgr Lefebvre lui-même qui a scindé en deux le pèlerinage Chartres-Paris? Et pourquoi Mgr Lefebvre a-t-il insisté pour diviser le pèlerinage? Parce que si on continuait, si les traditionnalistes disent, si les dits traditionnalistes, si ceux qui se veulent les serviteurs de la vérité fréquentaient en amis et en amitié tous ces gens qui compromettent la vérité en se soumettant à ces autorités qui ne veulent pas de la vérité, on se corromprait. Attention, notre dite marginalisation, dite, est aussi notre protection. Séparez-moi, Barnabé et Paul, dit le Saint-Esprit. Séparez-vous, mon peuple, dit le Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Séparez-vous des gentils. Il y a une séparation qui est tout à fait nécessaire pour sauvegarder la vérité. Autrement, par la faiblesse humaine. Saint Paul cite le poète païen. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Fréquenter les gens qui compromettent la vérité, humainement, on glissera dans le même compromis. Attention. Ce n'est pas pour cela qu'on ne veut pas faire l'apostolat de tous ces pauvres gens. C'est évident. Mais l'apostolat, sans compromettre la vérité, le whisky pur. Alors, ce bel exemple, les chers diacres, étudiez bien les paroles, les discours, les sermons de Mgr Lefebvre. C'est notre grand, grand maître. Quel don de Dieu que cet archevêque-là, nous le vénérons. Quel maître. Quel maître de vérité et de réalité. Quel réalisme en lui. Je ne crois pas qu'on puisse dire que Rome n'ait pas perdu la foi. Et encore, on lui proposait, mais faites un accord et vous aurez beaucoup, faites un accord avec Rome et vous aurez beaucoup plus de vocations. Il a dit, Mgr Lefebvre nous a dit non. Parce que ces vocations-là, les jeunes qui veulent s'entendre avec Rome, qui mettent l'unité avec Rome, sur pied d'égalité avec les vérités, si vous voulez, ça mettre la division, ça mettre la confusion dans nos séminaires. Mieux vaut que ces séminaristes aillent ailleurs. pour qu'on garde la pureté de la vérité. Voilà, Mgr Lefebvre, c'est clair. Alors, très chers confrères, très chers diacres, très chers sous-diacres qui seraient bientôt ordonnés, diacres et prêtres, et confrères, quel bel apostolat que le nôtre. Et nous sommes marginalisés, oui, et nous risquons de l'être toujours plus. Il est dans la logique de l'apostasie de 500 ans que la vérité finisse dans un tout petit nombre, que ce soit à la fin qu'un tout petit nombre qui détienne la vérité. C'est normal, c'est normal. Alors sachons aussi, outre les sacrements, sachons former les fidèles, en particulier toujours par les exercices de Saint-Ignace, qui sont une arme donnée par le ciel pour la fortification des hommes et pour qu'ils voient clair. Et je l'ai dit encore il y a quelques semaines, mais les sessions de doctrine, formons en profondeur les hommes que Dieu nous envoie. Pensons moins nous-mêmes à choisir ces hommes, parce que vous et moi, humainement, nous pouvons penser il serait très bien de convertir celui-là, il serait très bien d'atteler celui-ci. Mais si Dieu ne pense pas comme cela, ce sera inutile. Par contre, les âmes que Dieu nous envoie, des fois des âmes très humbles, des âmes très simples, ce sont habituellement les préférés de Dieu. Formons les âmes que Dieu nous envoie, ceux qui ont la foi et qui ne cherchent pas à la compromettre avec le monde et l'autorité. Nous nous soumettons en principe, bien sûr, et tout de suite, et demain, si les choses changent, à l'autorité légitime, demain. Mais tant qu'elle est dans l'erreur, pas possible. Alors, enseignons à nos fidèles, parce que des temps durs viennent, des heures dures viennent. Qui va tenir dans la tempête qui doit arriver? Moi, je ne me le promets pas à moi-même. Bon, la bon Dieu donne demain les grâces de demain, aujourd'hui les grâces d'aujourd'hui. Il ne faut pas demander aujourd'hui les grâces de demain. Mais à nous, notre devoir aujourd'hui, de former nos fidèles, de les tempérer, de les aguerrir, qu'ils aient une vue claire sur pourquoi on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Ce n'est pas par notre choix que nous faisons ce que nous faisons. Mais c'est le devoir de la vérité, c'est notre Seigneur, nous suivons notre Seigneur qui lui-même s'est soumis totalement à son Père, qui s'est vidé de lui-même, à nous de nous vider de nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Cher diacre, c'est que vous vous engagez dans un sacerdoce qui est infiniment plus grand, et ayez toujours ce sens de cela qui nous dépasse complètement. Ce n'est pas nos petites idées, ce n'est pas nos fantaisies, ce n'est pas nos souhaits, etc. Et alors, les âmes que Dieu envoie, souvenons-nous, nous œuvrons pour un Dieu qui nous dépasse. Nous ne comprenons pas les façons de faire de Dieu, du Seigneur. Il est insondable, il est infiniment sage, et sa sagesse nous dépasse complètement. Alors, suivons-le et soumettons-nous à ses desseins à lui. Et aujourd'hui, en cette belle fête, invoquons tous les grands apôtres Pierre et Paul, la vraie Rome, au Felix Roma, quae duorum principum es coronata purpurato sanguine, au Rome heureuse, qui a été couronnée par le sang empourpré des deux princes, et qui par là a une beauté qui excède celle de toutes les autres villes du monde. Ça, la vraie Rome, la Rome catholique, la grande, belle Rome. Nous œuvrons, nous aussi, pour la belle et la vraie Rome. Cher diacre, quel privilège que d'être appelé à ce service-là. Quel privilège, quelle grâce. Et quelle grâce que de participer à la lutte qui vient être appelés à participer à côté de notre Seigneur à la lutte qui vient. Elle doit en principe s'acharner. Nous n'avons, si nous sommes fidèles, rien à craindre. Et nous avons tout à gagner. Et si par moment nous avions peur, recourons à la très sainte Vierge. C'est elle, bien sûr, qui est la mère de l'Église. C'est même Vatican II qui l'a dit. Ce n'est pas faux parce que Vatican II l'a dit. C'est une des choses vraies que Vatican II a dit. Elle est mère de l'Église, elle est mère en particulier du prêtre. Elle nous aime comme une mère, avec un amour maternel et particulier. Sachons être de bons enfants de cette mère si bonne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, Monsieur le curé, chers confrères, chers séministes, chers Valaisans et chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un grand privilège, tout à fait inattendu, de pouvoir célébrer les obsèques de ce grand maître pour nous autres au séminaire aux années 70 que fut le chanoine Berthaud. Et que nous puissions tout d'abord offrir nos condoléances sincères à tous les membres de sa famille. Lorsqu'un homme de foi meurt dans la foi, la douleur est certainement tempérée par la certitude qu'il n'est pas perdu pour tout jamais. Au contraire, il ira à sa récompense, mais la perte humaine reste. Et donc, nous compatissons avec sa famille dans leur douleur. Et nous pensons à ce qu'il a été, ce prêtre. Ce bon prêtre, tout bon prêtre est un grand don de Dieu. Et il convient, au moment où il nous quitte, de nous rappeler ce qu'il a été. Je diviserai peut-être sa vie en trois parties, la foi, le courage et la fidélité. Le chanoine Berthaud était tout d'abord un homme de foi, et si on voulait livrer la clé de sa personnalité et de sa vie, ce serait sans aucun doute la foi catholique qu'il a réussi à garder jusqu'à la fin. Et cette foi, il l'a puisée tout d'abord dans sa famille valaisanne, sans aucun doute. Un homme de village de montagne, ces familles terriennes d'autrefois. Aujourd'hui, évidemment, l'apostasie des nations ravage la foi partout, même dans les villages et les vallées lointaines de montagnes. Mais en ce temps-là, c'était 1916 où il naquit, les villages de montagne étaient sans doute encore relativement intacts, et c'est là probablement sur les genoux de sa mère, qu'il a tout d'abord eu cette foi. Aux années 30, il entre chez les chanoines du Grand Saint-Bernard, dont nous sommes bien heureux d'avoir entre nous cet après-midi une représentation de ses anciens confrères. Et il est ordonné prêtre en 1941. Et déjà jeune prêtre, il se fait remarquer par Monseigneur Adam, pas encore évêque à ce moment-là, mais prévôt des chanoines du Grand Saint-Bernard. à qui il rend des services bien utiles. Aussi, parce qu'il s'est marqué évidemment par son intelligence, et il complète des études durant la guerre, il complète à Fribourg des études insignes, notamment sous le grand père dominicain, le père Ramirez. Et en 1946, il a son doctorat et sa licence en théologie, en philosophie et théologie. Il enseigne durant ce temps, et de 1847-8 jusqu'à 1954, c'est lui qui est chargé d'organiser le séminaire des chanoines du Grand Serbanneur ici à Écône même. Tout comme l'Église catholique n'est pas que la Fraternité Saint-Pédis, la maison d'Écône n'est pas que le séminaire de la Fraternité Saint-Pédis. Et à ce moment-là, la Providence, sans doute, qui a fait que ses élèves et ses séminaristes d'Écône puissent célébrer majestueusement ses obsèques, cette Providence le préparait pour ses services de plus tard par le fait qu'il enseignait donc déjà, qu'il préparait déjà les candidats au sacerdoce, les candidats des chanoines du Grand Saint-Bernard ici même, à Écône. Donc, qui aura mieux connu la maison même. En 1954, il est déplacé pour organiser également le collège à un collège au canton du Vaud, un collège qui appartient maintenant aux chanoines du Grand Saint-Bernard, et collège qu'ils veulent organiser. Et c'est le chanoine qui choisit, c'est le chanoine Berthaud qui choisit pour cette tâche. Encore une tâche de direction de formation et d'éducation des jeunes. Et le collège, en ce temps-là, monte de 60 à quelques 400 élèves, une grande expansion, et en plein dans un milieu, un canton plutôt protestant que catholique. Donc le chanoine a dû être prêt là aussi pour son ministère de plus tard. Et en 1960, il devient curé de la paroisse de Lens, en Mi-Vallée, pas tout à fait le Haut-Vallée, mais bien au nord-est d'ici, où il tient la paroisse jusqu'à 1971, les 11 ans de la Grande Tourmente. Mais donc les années de courage, pour les années de foi, que je remonte à ce fait qu'il a été élève du père Ramirez. Il a reçu dans la foi une bonne formation. Formation par les chanoines du Grand Saint-Bernard, complétée par l'instruction poussée et approfondie et très thomiste du grand docteur Ramirez. Et c'est cela, cette profonde et saine doctrine qui fera la force du chanoine à partir de ses années de formation, durant tout son sacerdoce. Et donc, nous arrivons à l'année 1960, où il devient le curé de Lens. Et là, donc, il est retiré du grand collège au canton du Vaud, et il a un peu, sans doute, cette paix et cette solitude qu'il aimait toujours. Et retiré un peu du monde, c'est là où il a vécu ses années de tourmente de l'Église universelle, de 60 à 71. Ces années où, si on en juge par la doctrine de l'Église de toujours et par la morale et les pratiques de l'Église de toujours, ces années où tant de prêtres ont perdu la tête, tant d'évêques, tant de prélats, et cela, malheureusement, d'en haut. Ce n'est pas les petites gens, eux aussi, ont fait naufrage, beaucoup dans la foi. Mais peut-être la faute principale ne leur incombe pas. En tout cas, les clercs ont été bien attaqués. Les prêtres ont été bien attaqués par le démon durant ces années-là. Si seulement ils pouvaient faire tomber l'Église, eh bien le monde entier tombait entre ses griffes. Et c'est ce que le démon a failli accomplir. Mais le chanoine Berthaud a retiré dans sa paroisse de Lens, Lille. Et avec sa formation bien solide que je viens d'évoquer, il ne se laisse pas intoxiquer par le venin qui circule partout. Un venin tellement attirant, tellement beau apparemment, tellement moderne, tellement au jour, bien enveloppé, en plastique étincelante, si on peut dire. Comme les paquets dans les supermarchés, la foi, la nouvelle église du supermarché, mais très bon marché. Il ne coûtera pas beaucoup de pratiquer cette nouvelle foi. C'est bon marché, supermarché. Eh bien, le chanoine ne se laisse pas griser. Et il lit les périodiques des grands combattants. Et il voit sans doute que ce n'est pas cela la foi que lui a enseigné le grand-père Ramirez. Et ce n'est pas là la foi qu'il a connue dans le valet de sa jeunesse, de son enfance. Et alors, quand il est libéré de la paroisse en 1971, il apprend que c'est le moment même, arrangé par la Providence, toutes ces coïncidences sont bien dans les plans de la Providence. Il est libéré, il se trouve dégagé à un moment où, le moment même où Monseigneur, en 71, vient fonder le séminaire de la Fraternité Saint-Pie-X pour sauver le sacerdoce, pour sauver la messe, et ce faisant, pour faire une grande contribution au salut même de l'Église. Et c'est à cela que M. le chanoine vient participer, d'abord en enseignant, c'était sa spécialité, c'était son charisme, l'enseignement. Même lorsqu'il parlait en privé à ses proches, à ceux qui étaient bien proches de lui, on me dit que des fois, si on lui posait une question qui portait sur la foi, il répondait en vous voyant comme s'il se trouvait toujours devant un auditoire de séminaristes. C'était bien son genre, c'était son style, c'était l'enseignement de la bonne doctrine était dans son sang. Et c'est parce que cette bonne doctrine n'était pas dans le sang des clercs, c'était dans leur tête, c'était dans les rayons de leur bibliothèque, mais ce n'était pas dans leur sang. Et cela vaut pour le grand nombre, sans doute, des évêques du deuxième concile du Vatican. Ils savaient la doctrine, mais ils n'y tenaient pas. Le chanoine y tenait. Et pour cela, il est venu se mettre aux côtés de Mgr Lefebvre. Et c'est là où il est resté, et ces années cruciales pour la fraternité, les premières années du séminaire ici. Bientôt, en 73, il est devenu dans une petite crise dont le séminaire a connu beaucoup l'une après l'autre, on peut dire, parce que le démon faisait tout pour ébranler, pour faire tomber le séminaire de Mgr Lefebvre. C'est dans une de ces crises en 73 que Mgr Lefebvre demande au chanoine de se mettre à la tête comme directeur du séminaire, ce qu'il fait donc avec toutes ces années d'expérience de la direction derrière lui. Mais j'arrive déjà à la troisième étape, l'étape de la fidélité. Je n'ai pas évoqué le courage de sa deuxième étape, disons, cette retraite, si c'était bien une retraite relative, supposons, dans la paroisse de Lens. Le courage. Le courage de cette deuxième époque, le courage de se séparer de ses confrères. Il avait la foi, il avait la bonne doctrine. Mais justement, ces évêques de Vatican II, beaucoup avaient la foi et beaucoup possédaient la bonne doctrine. Mais ils n'avaient pas le courage de faire ce qu'ils devaient faire pour défendre la foi et la bonne doctrine. Le courage leur manquait. Il fallait ceci, mais il ne fallait pas omettre cela. C'était nécessaire, la foi, mais c'était pas suffisant. Il fallait aussi le courage. Et nous autres de la fraternité Saint-Pédis, qui sommes nés, pour ainsi dire, dans le sacerdoce au moins, et certains d'entre nous dans la foi, après la grande tourmente de Vatican II, il nous est difficile peut-être de concevoir le courage qu'il a fallu, à Mgr Lefebvre et aux anciens prêtres qui l'ont suivi, comme le chanoine Berthaud, le courage qu'il leur a fallu pour se séparer de leurs confrères, pour affronter leurs supérieurs. Combien ils ont dû, cela a dû être une saisie exceptionnelle de la foi pour pouvoir dire, comme si peu l'ont dit, eh bien, cette foi-là passe avant la dite obéissance. Cette église des années 50 était des années 40, des années 30, je ne sais pas, était pétrie d'obéissance. Mais il s'est avéré par la suite, par les fruits, jugeant par les fruits, une obéissance faussée. Et combien de courage pour sortir de cette obéissance faussée, mes amis, beaucoup d'entre vous le savez, parce que vous l'avez vécu, vous avez dû le vivre. Mais il vous a fallu des chefs parmi des prêtres. Il vous a fallu, vous aviez beau vous dire comme laïc, ça ne va pas. Tant que vous n'aviez pas un prêtre pour vous conduire, il était très difficile pour vous seul. Alors imaginez combien plus de courage il a fallu aux prêtres et aux évêques, aux très rares évêques, de se mettre à la tête de ce mouvement, de cette réaction de la foi. Et les jeunes de la fraternité qui se trouvent maintenant au soleil dans le pré des cônes, au confort, au chaud, s'imaginent-ils ce que c'était ? Maintenant, tout cela semble, pour un certain nombre d'entre nous en tout cas, tout cela semble évident. C'était tout autre qu'évident dans les années 60, tout autre. Et combien de bons prêtres et de bons évêques, par exemple peut-être Mgr Adam, qui se sont laissés emporter, qui ont glissé à contre-cœur, pas tout à fait, mais enfin, qui n'ont pas su résister, qui n'ont pas su tenir tête à ce courant emporte-tout d'apostasie. Courage, le courage qu'il a fallu donc aux prêtres comme le chanoine Berthaud, être méprisé par tous ses confrères, être négligé, être mis au banc, ah, ce n'est pas rien. Le courage évidemment exceptionnel qu'il a fallu à Mgr Lefebvre. Mais Mgr Lefebvre n'aurait pas pu faire ce séminaire sans ses coadjuteurs, sans ses prêtres, sans des prêtres. Il était difficile que ces prêtres-là restent à ses côtés, mais le chanoine Berthaud est resté durant ces années cruciales, des années 70, les années du début, les années de la naissance, la nativité, la nature. Et c'est là le chanoine qui a contribué à déterminer la nature du séminaire d'Écône en assistant comme à sa naissance. Et donc le courage, la foi, le courage et maintenant la troisième époque, si on peut diviser comme cela, la fidélité. Et il nous a donné à nous autres séminaristes, les deux diacres assistants, Monsieur l'abbé Schmidberger, Monsieur l'abbé Grosch, à mes côtés aujourd'hui, tous les trois, nous avons vécu ces années et nous étions en plein dans les années du directorat de Monsieur le chanoine et quels souvenirs reconnaissants nous gardons de sa direction et de son enseignement. La raison qui gouverne, pas les sentiments, la raison, la doctrine, les arguments, la pensée, la tête là où elle doit être, c'est-à-dire à la tête et non pas le cœur. Le cœur doit suivre l'intelligence éclairée. Et c'est cela que le chanoine donnait, une intelligence exceptionnelle, et qui connaissait très bien saint Thomas et la Somme. Et c'est lui qui a tracé la ligne thomiste des études de ce séminaire-ci. Et Mgr Lefebvre lui aura été combien reconnaissant. Et nous autres séminaristes de ce temps-là, marqués, parce que c'était un maître. Il y avait d'autres anciens prêtres, mais aucun des autres, quelques autres qui nous aidaient, qui nous menaient, qui nous conduisaient durant ces années-là, qui nous donnaient l'exemple de la fidélité. Mais pour la doctrine, personne n'était à la hauteur du chanoine. Et alors, combien depuis nous avons été reconnaissants, en sachant par la suite combien vaut cette bonne doctrine, si profonde, si thomiste. Et alors, il a présidé au séminaire en un temps où Mgr Lefebvre lui-même devait beaucoup voyager. Et je me souviens un jour où le chanoine disait, il regardait d'en haut à travers la vallée, et il regardait tous ces ponts qui se construisaient en béton pour l'autoroute. Et il disait, ibi edificantur pontes, hic pontifices. Il a dit, là on fait des ponts, ici on fait des pontifes. Je ne sais pas s'il a vu ce moment-là que l'un des pontifes qu'il a aidé lui à construire serait là par un beau geste à la Providence pour célébrer ses obsèques. En tout cas, c'est intéressant à penser. Donc, la bonne doctrine, nous avons reçu du chanoine Berthoud, les exercices du Père Bariel et l'esprit de l'Église de Mgr Lefebvre. Ces trois esprits qui ne se contredisent entre eux, pas du tout. Mais ces trois-là, la grande intelligence des dominicains, la grande force des jésuites, la force de volonté, si vous voulez, des jésuites, transmise par les exercices, et la grande sagesse de l'Église qui nous est venue de Mgr Lefebvre. Et remarquons que chacun de ces trois anciens avait lui aussi un maître. Mgr Lefebvre, c'était le père Lefloc au séminaire français aux années 20. Père Lefloc, qu'on a voulu casser par la suite, parce que déjà aux années 20, sa doctrine était trop bonne pour que les modernisants supportent. Et alors, ils ont cassé le Père Lefloc. Le Père Ramirez, la bonne doctrine, le chanoine Berthoud, c'était le Père Ramirez, et les exercices du Père Vallée, le grand maître du Père Bariel, c'était le Père Vallée. Et alors, ces trésors de l'Église, incarnés, dont le Père Lefloc, le Père Vallée et le Père Ramirez, nous ont été transmis par ces trois anciens. Ils ont transmis, chacun des trois a transmis ce qu'il a reçu. Et voilà la fidélité capitale. Qu'est-ce que la foi sans la fidélité? C'est la trahison. Fides, fidelitas. Et alors, nous avons, voilà rapidement évoqué ce que nous avons pu recevoir du chanoine Berthoud durant ces années-là. Après, il est parti en France et puis il est revenu en Suisse pour s'occuper de la chapelle de Lausanne. Et les gens de Lausanne, sans doute, lui gardent un bien bon souvenir de leur avoir tenu leur chapelle durant, je crois, pas moins de 17 années jusqu'à l'année dernière. Et il gérait cette chapelle dans la mesure de avec toutes ses forces, en disant, lorsqu'on voulait le dissuader, lorsqu'on voulait le retirer, c'est mon devoir de faire ce ministère. La retraite, l'oisiveté, ce n'était pas pour lui. Au contraire, le devoir, les préoccupations des hommes. Et Et donc, nous gardons une reconnaissance grande. Combien grande envers, par exemple, ces trois anciens qui ont réussi à surpasser la crise, cette énorme crise, cette gigantesque crise, qui sont entrés comme tout le monde dans la crise, mais qui en sont sortis avec assez de foi et assez de fidélité pour relancer les jeunes, pour relancer une jeunesse, pour faire de nouveau des prêtres. J'ai posé la question à quelqu'un qui le connaissait bien, quelle était, y a-t-il une parole particulière, une caractéristique particulière, si vous voulez, y a-t-il une parole typique de M. le chanoine? On me répond, son amour de la messe. Il tenait beaucoup à la messe, à la célébration de la messe. On me dit que lorsqu'il était jeune, donc, chez les chanoines du Grand Serre Bernard, il y eut un ancien confrère qui surveillait la messe et la façon de dire la messe des jeunes. Et cet ancien supportait mal les messes trop longues. Et le chanoine Berthaud mettait, déjà ce temps-là, mettait 35 minutes, un peu plus que le normal, pour dire la messe. 30, c'était déjà peut-être probablement trop pour ce confrère, mais cet ancien disait, vous êtes le seul qui puisse me faire supporter une messe un peu plus longue. Donc, la chanoine mettait déjà depuis ce temps-là son cœur et toute sa piété dans la messe. Et c'est cela sans doute qui a contribué beaucoup à le sauver, là où beaucoup ont été, beaucoup de ses confrères, de ses supérieurs ont été plus ou moins perdus. La dévotion à la messe qui a duré jusqu'à ses derniers jours, juste donc au début de cette semaine, le dimanche, le lundi, mardi, il tenait encore toujours à dire la messe. Il ne pouvait pas, mais il voulait absolument dire la messe, même quand il ne pouvait plus. Cela lui tenait beaucoup, cela lui tenait tant. Et cet enseignement qui entoure, qui fait l'écrin de la messe, du bijou de la messe, c'est cela qu'il a réussi à transmettre. Et c'est de cela qu'il a marqué le séminaire au-dessus de nous, là-haut. Et c'est cela qui continue pour tous les séminaristes qui ne l'ont pas connu ou qui l'ont connu très peu. On parle à ces jeunes séminaristes de ces anciens. Maintenant, le souvenir même de Mgr Lefebvre s'estompe et se perd. Le souvenir de sa personne, en tout cas. Du père Bariel également, du chanoine Berthaud. Mais si monumentum queris circumspecies, si vous cherchez un monument de ces grands prêtres, regardez autour de vous. Et la continuation du séminaire et de la fraternité de Saint-Pie-X est leur œuvre. Nous disons aujourd'hui adieu à un grand prêtre, un grand valaisan, un vrai homme du Valais. Cela, c'est clair. C'était un homme de montagne, un homme du pays, un homme, il avait gardé toujours cette simplicité. Ce n'était pas un homme compliqué, pas un homme sophistiqué, pas un homme des grandes villes, mais combien plus fidèle et plus intègre pour cela. Nous avons eu l'occasion de faire lorsque la famille de Mgr Lefebvre est venue ici. Nous remercions cette famille, tous les membres de la famille, d'avoir été le berceau de ce grand prêtre. Nous remercions le Valais, sa vallée en particulier de Pradefort, et son canton, son pays. Nous tous de la fraternité, nous vous remercions. Et nous serons fiers. C'est un privilège de garder chez nous la dépouille mortelle du chanoine Berthaud à côté de celle de Mgr Lefebvre et du père Bariel. Quelle joie pour nous. Et nous, là encore, nous remercions la famille, car on peut se dire, il est bien possible que la famille aurait voulu l'enterrer plus près d'eux, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'aura pas été sans leur permission que nous avons pu le garder ici, là où nous le mettrons en quelques instants. Mais ces hommes de cette taille-là ne meurent pas. Et son œuvre, et l'œuvre d'enseignement, l'œuvre de doctrine du chanoine continue. Le séminaire d'Écône et la fraternité et les prêtres ne seraient pas ce qu'ils sont sans lui. Et alors, c'est avec un cœur endolori, mais très reconnaissant et très joyeux, que, avec vous, nous célébrerons pour Monsieur le Chanoine cette messe d'adieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.